Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Michel Craplet, oui. Bonjour. Vous êtes psychiatre, alcoologue. Vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob Le pouvoir et l'ivresse. Est-ce que vous pouvez revoir donc ce titre, Le pouvoir et l'ivresse, s'il vous plaît ?
Oui. Alors moi, j'ai étudié des ivresses historiques, hein, et le sous-titre, c'est De Noé à Helsine. Et puis, mon éditrice s'est rendu compte que je parlais beaucoup du pouvoir dans ces ivresses historiques, et je m'en suis rendu compte, et donc on a décidé de titrer le livre Le pouvoir et l'ivresse. Le pouvoir et l'ivresse, pour montrer comment... Le pouvoir, quelquefois, est augmenté par l'ivresse, temporairement, mais que le plus souvent, le pouvoir est perdu à cause de l'ivresse de celui qui ne peut plus contrôler sa situation. Alors, j'étudie... Oui, vous parliez de l'Uchronie. Effectivement, j'étudie des détails de l'histoire et j'essaye de montrer comment des petits détails, c'est-à-dire un verre de trop ou un verre de moins, va modifier progressivement le cours de l'histoire par des errements. Et donc c'est ça qui m'a intéressé, de voir comment ce qui est considéré comme tout à fait banal et comme tout à fait trivial peut avoir des conséquences importantes dans l'histoire, voire même dans la grande histoire. Donc je dis trivial, mais effectivement c'est trivial l'alcool, c'est-à-dire trivial au sens étymologique, ça se rencontre à tous les carrefours de nos villes, tous les carrefours de nos vies. Donc il y a de l'alcool partout depuis très très longtemps. Depuis 7000 ans en gros, on en a des preuves. Mm-hmm. Et puis on en a encore des preuves aujourd'hui de ce qui se passe. Alors donc j'ai étudié beaucoup dans l'histoire des guerres et des révolutions, et puis également en parallèle dans l'histoire intime, dans l'histoire quotidienne d'aujourd'hui. Parce que moi j'ai fait un travail, bon je suis médecin, j'ai travaillé avec des patients en face de moi pendant 30 ans, et puis je me suis rendu compte parce que je suis passionné par l'histoire, je me suis rendu compte que finalement je pouvais utiliser mon expérience clinique pour aller trouver dans les récits historiques de l'alcool que personne ne veut voir, personne ne peut ou ne veut voir, Moi, je peux, parce que j'ai cette habitude clinique d'aller chercher l'alcool derrière ses masques, par exemple derrière le tabac, derrière des histoires qu'on raconte, et j'ai trouvé le même genre d'histoire dans la grande histoire. Et c'est ça qui m'a passionné, parce que bon, moi j'aime l'histoire, j'aime la littérature, j'aime aussi beaucoup les beaux-arts, et donc je me suis amusé dans les musées à retrouver des bouteilles qu'on ne voit pas d'habitude ou des ivresses qu'on ne voit pas. Je peux vous donner un exemple à Strasbourg, si vous voulez. J'y étais l'an dernier, donc parce que j'ai beaucoup étudié les personnages de Noé, de Lot et de Judith. Et par exemple, donc à Strasbourg, vous avez un tableau magnifique qui a fait l'occasion d'une exposition il y a une vingtaine d'années, je crois. C'est le tableau de Simon Vouet, Lot et ses filles. Donc je me suis intéressé à ce genre de tableau. Alors, Lot et ses filles, j'en ai trouvé 50 versions dans l'histoire de la peinture occidentale. Et puis il y a aussi la célèbre histoire de Judith et Holofernes. Et aussi j'ai trouvé à Strasbourg un très beau tableau, c'est du Correggio, montrant effectivement l'assassinat de Holofernes par l'héroïne Judith. Donc je vais chercher dans les marges des récits, dans les marges aussi bien des témoignages que dans les marges des historiens, je vais chercher des éléments, et comme je vais chercher dans les tableaux ce que habituellement on ne voit pas, mais moi je vois parce que j'ai cette expérience clinique et puis un peu cette obsession d'aller chercher effectivement la bouteille là où personne n'y pense.
Oui, alors donc dans les tableaux, il y a l'envie de l'artiste, il peut créer, il peut inventer, il peut interpréter ce qu'il a lu ou mal lu ou peu lu.
Oui,
et donc
oui.
L'art est une indication certes, mais pas, on ne peut pas dire qu'on puisse se baser pour une assertion d'origine historique.
Oui. Effectivement, c'est pas une preuve. Et moi, en fait, bon, c'est l'histoire de Lot, de Noé ou de Judith. Je l'utilisais un peu plus comme métaphore.
Mm-hmm. Une
métaphore, effectivement, de l'ivresse d'un père, de l'inceste d'un père avec ses filles, ou de l'acte, effectivement, de Judith qui, grâce à l'ivresse de le faire, va lui couper la tête et va sauver son peuple.
Mm-hmm.
Donc c'est une interprétation. Mais par ailleurs, j'ai trouvé effectivement des preuves dans des textes. Alors, on peut peut-être parler par exemple de quelque chose qui est vraiment pas connu en France, c'est-à-dire l'attaque allemande du printemps 1918, hein, et l'échec des attaques allemandes du printemps 1918.
Mm-hmm.
Les Allemands, là, ont enfoncé le front français et britannique, sont arrivés très près de leur but, qui était d'arriver à Amiens et de couper la ligne entre les Français et les Britanniques. Et je me suis rendu compte que, en fait, les Allemands arrivés très très vite, étaient tombés sur les réserves de l'armée britannique. C'était formidable, les réserves. Et donc, les Allemands qui étaient affamés se sont précipités sur ces réserves, ont mangé et ont bu également, parce qu'il y avait aussi beaucoup de réserves d'alcool dans ces... Et de ce fait-là, ils se sont désorganisés, ils se sont débandés, et effectivement, l'échec a été, sinon complètement arrêté, tout au moins ralenti par cette histoire. Mais ce qui est encore plus intéressant dans l'histoire, c'est que les témoins allemands en parlent, les officiers allemands en parlent, les historiens allemands et anglais en parlent, mais les historiens français n'en parlent pas. Donc là, on est en face d'un tabou, on est en face d'un refoulé national. On ne veut pas voir l'importance que l'alcool a eue dans cette histoire. Alors là, dans cette histoire, c'est l'échec des ennemis, c'est-à-dire l'ennemi aurait été vaincu parce qu'il avait trop bu. C'est pas très glorieux pour nos armées. Mais de la même façon, si on considère effectivement que c'est un peu grâce à l'alcool qu'on est désinhibé, surexcité et qu'on va gagner, ça non plus, c'est pas très, très glorieux. Donc il y a, sur ce point de vue de l'alcool et la guerre, il y a une réticence beaucoup à en parler. Donc moi, je suis allé voir contre ces réticences, voir ce que je peux trouver de réalité à partir des récits et à partir des interprétations qu'on en a données.
Oui. Alors, revenir sur votre présentation, vous êtes alcoologue, donc médecin spécialiste et historien d'un refoulé national, la question alcool. Et vous défendez la pratique d'une alcoologie globale, c'est-à-dire une alcoologie au-delà de la médecine, avec la réunion de vos savoirs multiples, de vos formations multiples universitaires. Alors il y a les maths, l'architecture, et puis vos passions pour l'histoire, les beaux-arts, la littérature. Donc un regard polymorphe et très riche. Vous avez été de 1984 à 2014 médecin du service médical de la préfecture de police de Paris. Alors, revenons à cette notion de l'uchronie à l'histoire, c'est-à-dire que si on dit « si, il y en a un », ça aurait été différent.
On peut prendre l'exemple de l'assassinat de Kennedy, où le rapport officiel a bien démontré que les gardes du corps de Kennedy avaient passé une nuit complètement arrosée la veille de l'assassinat, et que, semble-t-il, ils n'étaient pas très frais pour protéger le président. Alors, je suis arrivé à cette histoire en partant d'une histoire antérieure du président Lincoln, le premier président des États-Unis, qui, lui, a été assassiné dans un théâtre, on le sait, parce que son garde du corps est allé boire dans le café d'en face en emmenant effectivement en plus son chauffeur. Donc là, on a un élément tout à fait anecdotique qui a quelques conséquences. L'assassinat de Lincoln, c'est pas rien, d'autant que celui qui lui a succédé donc a été pendant longtemps considéré comme un des pires présidents des États-Unis. Il a ralenti beaucoup l'intégration des Noirs dans la vie américaine. Donc là, il y a un événement mineur, un verre de trop, qui va entraîner au niveau d'histoire, hein, d'autres événements. Alors, ça, c'est on peut dire qu'on a les sources, on sait effectivement ce qui s'est passé. Alors, dans l'histoire plus ancienne, bon, je vous ai raconté 1918, bon, là j'ai la preuve, hein, j'ai des textes allemands, anglais et français. Dans l'histoire plus ancienne, on peut parler effectivement d'Azincourt, où on sait que les historiens anglais ont bien expliqué que les chevaliers français avaient bien bu la veille et qu'ils n'étaient pas très frais à Azincourt. Bon, il y avait d'autres raisons pour lesquelles les Français soient battus à Azincourt. Hein. Ils étaient sur un mauvais terrain et puis des chevaliers contre les archers gallois n'étaient pas très efficaces. Mais donc il y a quand même effectivement ce facteur alcool qui s'ajoute et qui aggrave d'autres facteurs. Hein. Je suis pas un paranoïaque qui veut décrire l'histoire du monde par la consommation d'alcool, mais je dis que c'est un élément qui s'ajoute à des éléments qui existent par ailleurs et qui vont aggraver des situations. Alors, on peut le voir aujourd'hui dans des cas très très quotidiens, malheureusement trop banaux, effectivement, des violences vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis des femmes, effectivement. Donc il y a dans ces violences, effectivement, du racisme, du virilisme, de la misogynie, mais elles sont, ça existe, c'est des causes structurantes, mais il y a des causes déclenchantes qui sont la consommation d'alcool. Mm-hmm. Et ça, on le voit pas dans les titres des journaux, mais quand on lit bien, on voit de temps en temps un adjectif, on voit effectivement apparaître un verre de trop, etc. Dans les violences vis-à-vis des femmes, c'est connu, on sait qu'effectivement, on l'a chiffré, on sait qu'il y a 30% des auteurs des violences qui sont alcoolisés. Vis-à-vis effectivement aussi dans les incestes, on le sait aussi, mais là, on parle encore avec plus de difficultés. Donc on est là face à cette difficulté d'en parler dans la vie quotidienne d'aujourd'hui. C'est pour ça que finalement, c'est peut-être plus facile d'en parler dans la vie ancienne, dans l'histoire, avec les difficultés qu'on a effectivement du recul. Et là, ça demande, effectivement, peut-être un peu d'interprétation, un peu d'imagination. Enfin, je me suis amusé pendant les guerres de la Révolution, pendant les guerres de l'Empire, de montrer effectivement qu'il y a pas mal de ces grands généraux qui ont été sous emprise de l'alcool et aussi quelquefois des soldats.
Alors, il y a donc cette juxtaposition du mot « pouvoir » et « ivresse » et il est facile de glisser vers l'idée que le pouvoir enivre et que l'ivresse pourrait servir à faire oublier à quelqu'un combien il a peu de pouvoir sur sa vie, sur son environnement, etc. Il y a donc un rapport très, 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 très poétique et très finalement fondé entre les deux termes, pouvoir et l'ivresse. Alors, l'alcool, évasion de la réalité, recherche de sensations, tolérance variable à l'alcool, on dit que celui-là tient bien l'alcool, ça veut dire quoi ? Et il y a la tolérance, on dit « oh ben moi je tiens bien l'alcool » et on devient dépendant, et de la dépendance qu'on ne supporte plus, on peut passer à l'abstinence, et l'abstinence c'est une règle à ne pas enfreindre parce qu'on a peur au moindre verre de retomber dans le cycle infernal.
Alors, il y a, dans cette histoire de pouvoir, il faut parler aussi de l'entourage. Parce que l'entourage qui subit, effectivement, la vie quotidienne et les violences de celui qui boit trop, en fait, il peut aussi en profiter. Et il peut justement, lui, prendre le pouvoir du fait de l'ivresse de l'autre. Alors, on le voit dans la fiction, on le voit dans les histoires de Tintin, où on sait qu'effectivement, le capitaine Haddock a perdu le pouvoir parce qu'il boit. Et on le voit dans la vie quotidienne, on voit effectivement comment dans des familles, effectivement, ça peut se jouer. On l'a vu dans le cas de Boris Eltsine, on sait effectivement qu'il a progressivement perdu le pouvoir du fait de ses ivresses, au bénéfice de certains et d'un certain enquête. Oui, qui est encore là et qui, c'est à Poutine que Eltsine, buveur, a laissé le pouvoir. C'est quand même, quelque chose qui pèse lourdement aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, on a effectivement donc une dialectique entre pouvoir et ivresse. Donc, c'est le pouvoir et l'ivresse. Mais donc, le pouvoir qui apporté par l'ivresse au début et puis ensuite le rapidement retiré. Et puis, c'est aussi le pouvoir de l'ivresse du pouvoir. Et alors là, on voit aussi des gens qui n'ont pas besoin d'alcool ou de drogue pour être ivre. Hein. On en a des exemples, je ne vais pas citer de nom, mais là, tout le monde y pense. Hein. Tout le monde sait à qui je fais référence. Il y a des gens, effectivement, qui ont l'ivresse de l'ego, du narcissisme, du pouvoir, et qui n'ont pas besoin, effectivement, de drogue ou d'alcool supplémentaire pour l'exercer. Donc, on a effectivement cette dialectique très, très riche entre tous ces termes.
Mmh. Alors, l'ivresse du pouvoir, l'ivresse de l'argent, l'ivresse du jeu, et cet état d'excitation n'est pas seulement lié à la prise de substances, mais peut-être induit par d'autres processus, tels que les émotions fortes. Il y a des émotions qui nous anesthésient quelque part. La danse, la transe, le jeûne, une situation donc que le corps juge dangereuse, mort de peur au bord de l'abîme.
En fait, on peut aussi ajouter l'ivresse de l'amour, quand même. Hein. C'est disons, la métaphore la plus joyeuse et la plus positive, effectivement, de cette ivresse, effectivement. Donc, je crois qu'effectivement, il faut voir ça dans sa globalité. Et moi, je le vois dans la globalité en utilisant aussi bien la sociologie que la psychologie. Et en alcoologie, nous parlons d'un phénomène qui est biopsychosocial, c'est-à-dire qu'il y a du biologique. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont très tolérants à l'alcool, qui tolèrent bien l'alcool, et justement, c'est ceux-là vont être en danger, hein, en danger d'en boire trop. Mm-hmm. Il y a un phénomène psychologique, tout ce que vous venez de dire, tout ce que, effectivement, l'alcool ou une autre drogue va apporter pour donner un surplus d'énergie, un surplus à certaines personnes. Et puis, il y a l'aspect sociologique, c'est-à-dire l'environnement, dans quel environnement les gens sont, qui leur permet soit de boire trop, soit de boire pas du tout. Donc il y a toujours un phénomène global, et moi j'insiste sur cette psychologie, qui est souvent en histoire mal vécue. Hein. On va parler de psychologisme, de psychologisation. Vous avez des critiques, effectivement, des politistes qui vont lutter contre cette tendance, qui eux considèrent que la politique, c'est la grande politique, c'est l'idéologie, c'est la socio-économie, et c'est pas du tout la psychologie. Mais on sait aussi quand même comment le corps et le psychisme de certains hommes, grands hommes, je dis grands hommes, hein, plus que grandes femmes, hein, parce que les hommes sont effectivement beaucoup plus dans ce cas-là, et aussi de petits hommes, de petits tyrans domestiques vont être effectivement sous l'emprise de leur pulsion.
Alors cette consommation d'alcool peut être influencée par des facteurs d'environnement, par exemple un contexte convivial, puis ensuite trouver facilement de l'alcool à la maison, dans le placard pour les jeunes ou même pour les plus âgés. Cet alcool, c'est une drogue dont la consommation forte chronique peut dégénérer en addiction. Alors, addiction, le terme, c'est un anglicisme. Est-ce qu'on peut parler de cette addiction? Et est-ce que le fait de juguler une addiction à un produit, par exemple à l'alcool, fait que cette addiction ne disparaît pas et peut se reporter sur une autre possibilité, par exemple manger beaucoup, etc. L'addiction se déplace sur des supports variables.
Oui, alors effectivement, on vous dit addiction, c'est un anglicisme, mais en fait c'est un mot d'origine française. Il est passé en anglais du français médiéval, et il est avant un mot latin. Hein. Addiction, c'est un mot effectivement du juridique latin. Donc c'est un mot transfrontière, vous voyez, qui circule comme les boissons, finalement. Alors c'est vrai que l'addiction est un phénomène à traiter dans son ensemble, parce que si on passe d'une addiction à l'autre, c'est pas terrible. Ça peut être une façon de s'en sortir. Hein. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui arrêtaient de consommer de l'alcool. C'était dans une catastrophe, effectivement, qui pendant un an à peu près ont peut-être fumé davantage, parce qu'effectivement ils ont arrêté de boire. Et puis après, ils ont réduit aussi leur consommation de tabac, parce que justement tout le travail qu'ils avaient fait sur l'alcool les a aidés après à lutter contre d'autres addictions. Donc effectivement, c'est pour ça que le traitement d'une addiction à l'alcool, c'est pas seulement finalement un médicament, c'est une prise en charge globale avec un psychothérapeute, avec l'aide des anciens malades des groupes rétablis, qui va leur permettre effectivement de parler d'eux-mêmes, de parler. L'addiction, c'est dans l'addiction, on est enfermé avec un produit. Hein, on est seul. Hein, et on utilise l'alcool ou comme un médicament. Alors, l'auto-prescription, c'est jamais très bon. Effectivement, il faut un prescripteur. Donc, il faut pouvoir en parler. Donc, pouvoir en parler avec un psychothérapeute, un psychiatre, ou en parler dans un groupe de malades rétablis, ça va permettre justement de stabiliser cette abstinence après un sevrage qui quelquefois est difficile, qui quelquefois nécessite une hospitalisation ou un traitement médicamenteux, mais après, il y a tout un temps de rétablissement qui doit être très très long et qui permet de faire sortir, en gros, faire sortir l'alcool de la tête après l'avoir fait sortir du corps pendant le sevrage. Donc il faut effectivement le faire sortir de la tête. Et c'est difficile parce que l'alcool est partout, justement. Alors, un peu moins maintenant qu'auparavant, mais quand même, hein, c'est la question alcool. Moi, je dis souvent que c'est pas une question de viticulture ou d'agriculture, c'est une question de culture, tout simplement. Hein. C'est dans nos rites, c'est dans nos rites et puis dans nos récits historiques, dans nos romans, dans nos tableaux, dans toute notre histoire culturelle. Et c'est pour ça que c'est assez difficile de non pas vivre sans alcool, j'aime pas ce mot sans alcool, vivre hors alcool, c'est-à-dire que l'alcool ne compte plus. Et là, on a à faire tout un travail avec les gens qui sortent de l'addiction, en leur expliquant que, ben oui, qu'ils vont tout à fait pouvoir vivre sans alcool, qu'on va pas sans cesse leur en proposer, que tous les plats qu'ils vont consommer n'en contiennent pas, alors qu'ils sont eux-mêmes persuadés, quand ils sont dans l'addiction, premièrement qu'ils sont très seuls, hein, alors qu'ils savent pas qu'il y a des millions de gens qui sont comme eux, et qu'en fait, ils peuvent très bien et qu'ils vont pouvoir retrouver des activités, toutes les activités, toutes les festivités possibles sans alcool. Mais c'est vrai qu'au début, il va falloir prendre beaucoup de précautions du fait de l'environnement pour pouvoir progressivement reprendre vie et progressivement reprendre la possibilité de choisir, alors que quand on est en addiction, on ne choisit pas. On choisit toujours seulement le produit pour lequel, ou le comportement pour lequel on est addict.
Alors, docteur Michel Craplet, à partir donc de ce livre que vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob, dont le titre est « Le pouvoir et l'ivresse », penchons-nous peut-être sur ce qu'est ce produit, l'alcool, cette boisson considérée comme récréative sous la forme de boisson alcoolisée. Alors, comment est-ce que ça donne cette impression d'ivresse, ces sensations, cette addiction? C'est de l'éthanol. Alors, parlez-nous un peu comment ça fonctionne. Ça nous semble comme un produit un peu féerique, magique, dangereux, presque létal. Comment ça fonctionne, l'alcool, dans un corps humain?
Alors, vous avez raison d'utiliser le mot éthanol, et c'est un mot, effectivement, moi, j'emploie pour bien faire la différence entre la molécule active de toutes les boissons alcooliques, hein, et puis l'enrobage socioculturel qu'on leur donne. Hein. Donc, effectivement, il y a ce noyau dur de la molécule, qui est une molécule toxique et toxicomanogène de l'alcool, qui va, effectivement, entraîner quelqu'un dans la toxicomanie à l'alcool, en quelque sorte. Donc, l'alcool est, par rapport à d'autres drogues, l'alcool a quand même une grande particularité, c'est le fait de pouvoir être en même temps un excitant, un désinhibiteur, hein, au départ. On dit que le surmoi est soluble dans l'alcool, c'est-à-dire qu'effectivement, on oublie les règles morales, effectivement, en étant en état d'ivresse. Donc, c'est un désinhibiteur, mais c'est également un tranquillisant. Et même un hypnotique. Donc, ça permet.
Alors, pour revenir un psychotrope, c'est ce qu'on peut dire ?
Oui, psychotrope, c'est-à-dire qu'il agit sur le psychisme, hein, mais il agit à la fois comme désinhibiteur de façon positive pour réveiller en quelque sorte, pour permettre de passer à une action qu'on n'aurait pas faite si on n'avait pas eu l'alcool, et puis également tranquillisant, c'est-à-dire effectivement qui va permettre de supporter mieux les conditions de la vie, voire même effectivement somnifère hypnotique. Donc il est utilisé pour toutes ces raisons-là, aussi bien pour se donner de l'énergie que pour s'en enlever et passer dans le sommeil et dans le coma. Donc il a cette particularité, alors que souvent les drogues sont soit excitantes, soit tranquillisantes, mais là l'alcool peut être les deux, en fonction des buveurs, et en fonction des doses, et en fonction il peut y avoir un effet biphasique. C'est, d'abord, ça excite, et ensuite, ça va tranquilliser. Donc, c'est un produit qui est très particulier, sur lequel certaines personnes vont réagir différemment que d'autres. Hein. Donc, chez certaines personnes, ça donne effectivement plus d'effets que sur d'autres. Donc, c'est ça qui est important. Et chez certaines personnes, l'alcool est mieux supporté, mieux toléré que d'autres. Je donne un exemple. J'explique que l'élimination de l'alcool varie avec une vitesse qui est de 1 à 5. Il y a des gens qui éliminent l'alcool 5 fois plus vite que d'autres. Alors, ceux-là, bah, ils sont effectivement dans un premier temps protégés dans la vie en société, mais dans un deuxième temps, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations, parce qu'ils ont beaucoup d'ennuis dans la vie, ils vont pouvoir en boire davantage parce qu'ils le supportent mieux. Donc il y a cette grande inégalité biologique. On ne rencontre pas ça ailleurs. Hein. Mm-hmm. Hein, on peut imaginer, si on imaginait par exemple que la taille des individus varierait de 1 à 5, ben, on ne peut pas vivre ensemble, on ne peut pas construire d'escalier ou de voiture si la taille des humains varie de 1 à 5. Or là, la capacité à supporter l'alcool varie de 1 à 5. Et pourtant, quand vous êtes dans un bar, une tournée avec des copains, ben, on vous donne la même quantité à chacun, on ne vous donne pas en fonction de votre tolérance. Et pourtant, il y a des tolérances qui sont très, très différentes, et donc qui vont, en fonction de l'environnement, fabriquer des histoires avec l'alcool qui seront différentes. Alors, quelquefois, quelqu'un est un enfant de quelqu'un qui boit trop, qui est alcoolique, et donc là, il va lui ne pas boire du tout, hein, ou quelquefois, il va limiter, il va boire davantage. Quelquefois, c'est beaucoup plus tard, et quelquefois, moi j'ai vu ça, à la mort d'un parent qui avait un problème d'alcool, cette personne commence à boire, en quelque sorte comme s'il voulait prendre la suite ou comme s'il voulait continuer de faire vivre le parent en limitant. Et là, effectivement, il faut insister sur le fait que bon, l'alcoolisme n'est pas héréditaire. Quand on voit l'alcoolisme qui se reproduit dans les familles, c'est parce que ce sont des habitudes, des rites, la culture de la consommation d'alcool qui se transmet de génération en génération. Donc c'est toujours effectivement par la transmission de rites, par la transmission d'histoires, par les mots que les choses vont survenir.
Alors quel conseil pourriez-vous donner, conseil autorisé, vous êtes médecin, psychiatre, à un alcoolique, puisqu'on a vu qu'il y a vraiment des rampes qui ne sont pas très étanches, on peut passer d'un secteur de la dépendance à l'addiction, etc. Et puis l'abstinence, et puis cette abstinence, on craque. Alors qu'est-ce que vous pouvez conseiller ?
Alors, le premier conseil, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est effectivement de demander de l'aide, d'aller en parler à un professionnel du soin, un professionnel de l'aide. Hein. Donc, sans avoir peur qu'on va vous sauter dessus et qu'on va vous enfermer si vous en parlez à un professionnel du soin. Vous savez, les hôpitaux, ils sont suffisamment surchargés et équipés que ça risque pas. Mais il faut effectivement pouvoir en parler. Donc il y a des conseils vis-à-vis de ces personnes-là en disant qu'il y a des moyens de s'en sortir, que l'abstinence n'est pas une torture. Moi, l'abstinence, je ne l'impose pas, je ne l'ai jamais imposée, je l'ai proposée, effectivement, dans une consultation alcoolique qui est souvent une discussion. Effectivement, je propose l'abstinence, je la mets devant la table, j'explique aux gens qu'ils pourraient en être des bénéfices, et je leur dis d'essayer. Et là, d'essayer de l'abstinence et d'essayer de réduire la consommation. Alors actuellement, aujourd'hui, en janvier, nous sommes en Dry January, c'est effectivement le défi de janvier, cette période où beaucoup de gens essayent effectivement et réussissent à diminuer leur consommation. Et une fois qu'ils ont vu les effets positifs que ça leur apporte, donc à ce moment-là, ils peuvent continuer. Alors il y a des conseils vis-à-vis de l'entourage qui sont très très importants parce que l'entourage participe à l'addiction. Il est souvent codépendant, hein, comme je disais tout à l'heure, il en bénéficie, donc il faut lutter contre ça. Mais vis-à-vis de l'entourage, moi j'insiste beaucoup sur le fait que je propose à l'entourage, je conseille à l'entourage surtout de parler en leur nom propre. C'est-à-dire de ne pas dire à quelqu'un « tu as bu, tu as trop bu, tu devrais aller voir un médecin, c'est pas bien ce que tu fais, tu bois trop, tu es alcoolique », mais de dire « je ne supporte pas cette situation ». Je pense que tu bois trop, je pense que tu devrais avoir un médecin, c'est-à-dire toujours se mettre en question, dire je, et laisser à l'autre la possibilité de répondre, mais pas de comme ça, pas de lui imposer, pas de l'acculer derrière des menaces ou des invectives. Donc, être alcoolique, c'est possible et ça se soigne. Hein, on est alcoolique rétabli, c'est-à-dire qu'on est toujours alcoolique, on a toujours cette sensibilité à l'alcool, mais on peut ne pas boire. Mais effectivement, il faut que ce soit la personne elle-même qu'il accepte progressivement cette idée qu'il est alcoolique, c'est-à-dire en fait qu'il est sensible à l'alcool, qu'il est en fait, moi je dis, allergique à l'alcool, c'est une allergie, et ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup comme image, effectivement, parce que l'allergie, on a le droit d'être allergique, et quelqu'un qui est allergique, on ne va pas de force lui donner effectivement à manger le produit qui lui fait mal. Alors que là, vis-à-vis de l'alcool, il y a une telle pression sociale, une pression culturelle, que les gens insistent lourdement, et que c'est très pénible pour les gens qui ne supportent pas l'alcool ou qui l'ont supporté et qui ne veulent plus en boire, de subir les attaques des autres. Mais si, vas-y, aujourd'hui c'est ma fête, aujourd'hui c'est le 1er janvier, aujourd'hui c'est du vin qui vient d'un producteur que je connais, donc il est bon, ça ne fera pas de mal, et puis c'est que de la bière, donc c'est pas un alcool fort. Donc il faut effectivement que l'entourage là laisse tranquille celui qui a décidé de ne pas boire. Et ça, c'est tout un travail que la société doit faire pour qu'on accepte que certaines personnes sont allergiques à l'alcool et ne peuvent plus en consommer.
Alors docteur Michel Craplet, vous êtes psychiatre et alcoologue. Alors l'alcoologie, est-ce que c'est une science, une spécialité qui est enseignée depuis quand ?
Le paradoxe, j'entends bien dans votre question, c'est que l'alcoolologie, en ce moment, est en voie de disparition dans ce qu'on appelle l'addictologie. Hein, on parlait tout à l'heure de l'addiction. Mmh. Effectivement, dans les addictions et dans l'addictologie, on regroupe beaucoup de choses. Hein, des toxicomanies, des drogues illégales, des comportements effectivement troubles alimentaires, etc. Bon, d'autres conduites à risque, et dans ce complexe, ce fourre-tout de l'addictologie, on oublie effectivement l'addiction principale, c'est-à-dire l'alcool. Mm-hmm. Et en fait, moi, quand je défends l'alcoologie, je défends ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire une alcoologie culturelle, hein, où on tient compte de l'ensemble des phénomènes sociaux et culturels. Et donc, de cette façon-là, ça me permet, en mobilisant la culture, et comme je le fais en mobilisant l'histoire, la littérature, les beaux-arts, effectivement, de rendre le soin plus facile et la prévention plus joyeuse. Hein, parce qu'effectivement, la prévention, ça peut être joyeux. Il ne faut pas voir l'abstinence comme une condamnation. Être abstinent, ça ne veut pas dire être privé d'eux. Abstinérer, hein, du point de vue étymologique, ça veut dire tenir à distance. Abstinérer, tenir à distance. Il y a tenir le verre à distance, ne pas le prendre pour soi, et éventuellement le donner à boire aux autres, ceux qui n'ont pas de problème d'alcool. Donc ça veut dire qu'on peut toujours mener une vie sociale tout à fait normale. Mm-hmm. Donc l'alcoologie, c'est une discipline qui est sortie donc dans la médecine à la fin des années 70, qui a été enseignée et qui aujourd'hui disparaît un peu dans le cadre de l'addictologie. Et là, je crois qu'il faut sans cesse rappeler que dans les addictions, c'est l'alcool qui occupe une place prépondérante, qu'on en parle de moins en moins. Malheureusement, on va parler d'addictions plus spectaculaires, hein, qu'on va parler de la cocaïne, on va parler de l'addiction au jeu, de l'addiction aux écrans. Alors, bien évidemment, tout ça, c'est des problèmes, mais on peut, premièrement, ça peut aussi s'ajouter à une addiction à l'alcool. C'est l'addiction à l'alcool qui peut avoir commencé et faire qu'on passe à d'autres addictions. Donc il faut vraiment s'intéresser sérieusement à cette question alcool dans notre société, et c'est pas facile parce que moi je dis souvent que boire de l'alcool en trop ou en boire pas du tout, c'est faire un mauvais usage d'un bon produit. Donc c'est une idée qui m'avait été donnée par des Norvégiens qui m'avaient dit, mais pour un Norvégien, ce qui est dangereusement pour autrui ou pour soi-même, c'est faire un mauvais usage d'un produit, c'est considéré comme être un mauvais Norvégien. Eh bien, de la même façon en France, celui qui ne boit pas du tout d'alcool, celui qui en boit trop, va être considéré comme un mauvais Français, celui qui fait un mauvais usage d'un bon produit. Et on est là avec cette difficulté, et là on est vraiment dans la culpabilité, même au-delà, dans la honte, effectivement, de faire ce mauvais usage de ce qui circule entre nous, qui est le signe de la convivialité. On peut donner un exemple assez amusant du fait, enfin, on peut parler du copain, hein, le copain, hein, le copain ou le compagnon, c'est celui qui partage le pain, hein, copain, compagnon. C'est assez amusant de voir qu'il n'y a pas de mot pour dire celui qui partage le vin. Alors qu'en fait, c'est vraiment ce partage social qui est très très important. Donc on parle des commensaux qui parlent, hein, qui partagent la table, on parle des camarades qui partagent la chambre, le copain ou le compagnon qui partage le pain, mais pour le vin, pour l'alcool, il n'y a pas de mots. Et je pense que cette absence de mots est très significative du tabou dans lequel on est. On ne veut pas en parler, mais c'est pas en n'en parlant pas que le problème va disparaître. Au contraire.
Docteur Michel Craplet, je vous remercie de nous avoir présenté ce dernier livre qui paraît aux éditions Odile Jacob, dont le titre est « Le pouvoir et l'URSS ». Vous avez écrit d'autres livres passionnants. Par exemple, vous êtes l'auteur de « Passion alcool », Odile Jacob en 2000 déjà, « Parler d'alcool », édition de La Martinière en 2003, « À consommer avec modération », Odile Jacob 2005, l'alcool, première addiction, comme vous venez de le dire, en 2021. Et puis, chez Bernard Grasset, il y a eu aussi l'ivresse de la Révolution. Travaillez-vous sur un prochain livre dans ce sujet, même sur ce sujet ?
Ah oui, je me remercie de vous poser la question. Oui, j'ai un manuscrit qui est prêt sur l'alcool et la guerre. Hein. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais où je développe effectivement ce sujet. Et je me rends compte que c'est encore plus difficile de le publier que sur Alcool et Révolution. Il y a là beaucoup de réticence sur un sujet à risque. Donc j'ai parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé au printemps 1918. On pourrait parler de ce qui s'est passé dans les tranchées, parce que là on a beaucoup de préjugés. Hein. On imagine que l'alcool a servi au poilu à sortir de la tranchée, à attaquer, c'est pas vrai, hein, et l'institution militaire n'a pas effectivement utilisé l'alcool de cette façon complètement folle, mais en revanche, l'alcool a servi à tenir dans l'horreur des tranchées. Donc là, comme plus comme un tranquillisant que comme un désinhibiteur. Et puis, je suis désolé de terminer sur cette, je crois qu'on termine sur cette note un peu pessimiste, mais j'ai aussi relevé le rôle de l'alcool pendant la Seconde Guerre mondiale, et là, c'est un rôle terrifiant. C'est un rôle qui a été révélé dans l'Est de l'Europe par Robert Browning dans la Shoah par balles, où effectivement les tueurs effectivement étaient alcoolisés. Et puis j'ai trouvé aussi des histoires d'alcool dont personne ne parle en France en juin 1944, dans les événements de Radour-sur-Glane, du Vercors et de Maillé, où là aussi les soldats étaient alcoolisés. Donc les soldats, c'est pas du tout une justification, hein, mais les soldats, finalement, c'est une explication du fait que l'alcool apporte quelque chose en plus, qui permet en plus du racisme, de la violence guerrière, de la xénophobie, etc., de passer à l'acte, à des actes horribles que les gens n'auraient pas fait, que les soldats n'auraient pas pu faire s'ils n'avaient pas été alcoolisés, et après pour oublier ces actes, après, également grâce à l'alcool. Donc on est là avec un sujet difficile, vraiment périlleux, il faut être très prudent dans les mots qu'on emploie, mais je crois qu'il faut en parler. Et aussi en parler pour ce qui se passe aujourd'hui, encore en Europe, où on a vu effectivement comment l'alcool était utilisé toujours dans des crimes de guerre.
Alors, on peut dire peut-être qu'il y a l'alcool charitable pour aider lorsqu'il y a des douleurs, des souffrances qui écrasent. Il y a sûrement l'alcool meurtrier, finalement.
Oui, donc l'alcool charitable, vous dites, ou compassionnel, effectivement, hein, dans certains cas, c'est un baume. Hein, il faut dire que pendant des siècles, l'alcool a été un médicament. Hein, il n'y avait pas d'antiseptique, et c'était l'alcool qui était le meilleur antiseptique. Il n'y avait pas d'anesthésique. Donc effectivement, sur les champs de bataille, pour une opération, pour une amputation, on utilisait l'alcool, ou dans les westerns, on voit ça pour arracher des dents. Donc, il y a cette polyvalence des effets de l'alcool qui désinhibe et qui en même temps tranquillise, qui fait qu'il a été utilisé très largement. Alors aujourd'hui, l'alcool n'est plus un médicament, mais il reste malheureusement effectivement un outil qui est utilisé dans de nombreuses violences, qu'elles soient de la vie quotidienne ou qu'elles soient guerrières.
Eh bien, je vous remercie beaucoup pour ce livre vraiment passionnant, dont je rappelle le titre, Le pouvoir et l'ivresse, ça paraît aux éditions Odile Jacob. Je vous remercie beaucoup, docteur Michel Craplet, à une autre fois, avec grand plaisir.
Merci à vous.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.